right. Keep me covered.
What with?
Just keep me covered.
Too late.
What?
There he is.
Where?
Here.
What, behind the rabbit?
It is the rabbit.
You silly sod.
What?
It goes all worked up.
Well, that's no ordinary rabbit. Oh. That's the most foul, cruel and bad-tempered rodent you ever set eyes on.
You tit. I saw my arm and I was so scared.
Look, that rabbit's got a vicious streak a mile wide. It's a killer.
Get stuck.
It'll do you a treat, mate.
Oh, yeah? Manky Scots git.
I'm warning you.
What's he do? Nibble your bum?
He's got huge, sharp... He can leap about... Look at the bones!
Go on, boss. Chop his head off.
Right, silly little beater. One rabbit, two coming right up.
Look! Ah!
Jesus Christ!
I warned you.
I've done it again.
I warned you, but did you listen to me? Oh, no, you knew it all, didn't you? Oh, it's just a harmless little bunny, isn't it? Well, it's always the same. I always
tell them.
Shut up!
Do they listen to me?
Right!
Oh, no.
Tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse.
Ah, qu'est-ce que c'est ça, tabarnak?
Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans.
Soyez prêts pour hyper atomique exponentiel.
Scotty, il me faut la puissance maximum.
Alors, bonne fin d'après-midi à tous et à toutes. En ce lundi 6 avril 2009, tout juste après 17h, vous écoutez votre magazine hebdomadaire sur le monde ludique Puissance maximale sur les ondes de CKIA. Vincent Langlois au micro et je suis accompagné, comme à l'habitude, de François G. Couillard.
Salut Vincent, et on a un invité aujourd'hui.
Un invité de marque, et oui, nous sommes avec Émile Gauthier d'Ubisoft.
Salut les gars, ça va bien?
Hey, super, super.
Toujours un plaisir.
Bien, merci d'être parmi nous aujourd'hui, Émile, et on va pouvoir parler de plein de petites affaires avec Émile au niveau du jeu vidéo et même de ce qui s'est passé la fin de semaine dernière au niveau, c'était le festival Ma carrière en jeu, enfin, contre l'événement Ma carrière en jeu. On va pouvoir parler de ça dans quelques instants. Juste le temps de vous dire également qu'aujourd'hui, on va parler, bien, ça va être une émission vraiment côté jeu vidéo, si on y va avec ça, parce que moi, j'avais quelques commentaires sur Killzone 2 et également sur Guitar Hero Metallica que j'ai essayé quand même, disons, à fond, entre guillemets, en fin de semaine.
T'as rocké à fond?
J'ai rocké à fond avec Guitar Hero, moi qui pensais que c'était la fin des jeux de Guitar Hero avec ce que c'était avec Aerosmith et même le troisième. Je me dis, bon, on réinvente n'apprendra rien de nouveau. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau de réinventer avec Metallica, mais juste de pouvoir jouer les tunes de ce fameux band mythique.
C'est drôle de, coïncidence quand même que Metallica, ils vendent les billets, là, ils ont vendu les billets en fin de semaine.
Ah oui,
là,
c'est ça, c'était la vente des billets.
Le jeu sort en même temps.
Ah oui, le timing est bon.
Les gens se sont arrachés les cheveux pour les billets et je sais pas si vous êtes des fans de Metallica.
Ouais, mais toi, personnellement, t'es-tu un fan de Metallica?
Je suis pas tellement un fan de Metallica. Je reconnais leur bon côté, mais je suis pas tellement un fan. Par contre, j'aime bien Guitar Hero, fait que je vais bien finir par jouer anyway.
C'est quand même assez excellent.
Parce que toi-même, Émile, t'es dans la musique électronique, là.
Ouais.
T'as un nom d'artiste aussi, là.
Aussi, ouais. J'ai une double vie.
Un peu comme tout le monde. Donc, ça fait à peu près le tour de ce qu'on va faire aujourd'hui, mais on va parler tout de suite avec Émile de ce qui s'est passé la semaine dernière, qui était l'événement Ma carrière en jeu, qui en était à sa deuxième édition.
Troisième édition. En fait. Ouais, exact. Donc, c'était dans le cadre du Festival de cinéma des Trois Amériques.
Oui.
Vous avez dû en entendre parler un petit peu. Donc, Ma carrière en jeu, ça s'inscrit dans le cadre de ce festival-là. C'était la troisième fois, donc c'est vraiment le rendez-vous idéal. Tu sais, à Québec, on n'en a pas d'événements ou très peu reliés aux jeux vidéo, donc grand public du moins. Donc, Ma carrière en jeu remplit un peu ce besoin-là, selon moi. Donc, évidemment, c'est l'endroit idéal pour apprendre plus sur les métiers, les carrières dans le domaine du jeu vidéo. C'est l'endroit pour essayer les jeux des entreprises de la région, parce que tout le monde, toutes les entreprises du coin étaient là. Donc, Ubi, on était là, Binox était là, Frima, Sarbacane, Longtail et des institutions d'enseignement qui participent à la journée aussi. Donc, vraiment, cette année, on a eu vraiment, c'était une année record. Là, on parle d'environ 1250 participants, visiteurs qui sont venus. Ouais, ben c'est oui. Quand même... l'année dernière, c'était environ 1000. Et la première année, en fait, c'était aux alentours de 700-750. Okay. Donc, on peut voir qu'il y a quand même une croissance assez stable pour la journée. Puis, il y avait des ateliers, il y avait des conférences tout au long de la journée. Donc, les jeunes et leurs parents et les étudiants pouvaient venir apprendre justement quels sont les métiers du jeu vidéo, comment y accéder et quelles sont les étapes de développement d'un jeu vidéo.
Mais dis-moi, Émile, est-ce que toi-même, t'as fait une conférence?
Oui, ben ce qu'on a fait, moi, j'étais avec un collègue qui est dans l'équipe techno. Chez Ubi à Québec, on développe de la technologie, donc on fait pas juste des jeux vidéo. Puis, on a présenté un atelier interactif. Donc, on était dans le moteur de jeu qu'on conçoit actuellement. Puis, on expliquait aux gens un peu les bases de la conception de niveau. Donc, on a modélisé plusieurs éléments du vieux Québec. On avait fait ça à l'origine pour le 400e de Québec, donc qu'on avait présenté cet été. Puis c'est justement, avec le public, on place les éléments sur la map. On explique les notions de physique, les notions de collision, les notions de caméra, tout ça. Donc, c'est très, très, très intuitif. Puis, les gens ont vraiment participé. Donc, on a fait ça deux fois dans la journée, un peu comme les autres conférence, puis c'est un gros succès.
Bien, vraiment intéressant. Dis-moi, Émile, c'est quoi l'impact au niveau des entreprises, un peu comme Ubisoft, d'un événement comme ça? Est-ce que les gens vous posent plein de questions reliées à tout ce qui les domaine? Est-ce que vous recevez après ça des courriels des gens qui ont participé puis qui ont besoin encore plus d'informations? C'est quoi l'impact pour une entreprise de Québec?
Bien, un petit peu tout ce que tu viens de dire, Vincent, c'est tout ça, c'est vrai, en fait. Les gens ont vraiment beaucoup, beaucoup de questions. Il y en a encore qui pensent que, tu sais, à Québec, c'est encore jeune, hein, même si ça fait du jeu vidéo depuis 10-15 ans. Le fait que ça soit connu du public, c'est encore jeune. Donc vraiment, il y a plein de parents qui ont encore des questions à savoir est-ce que c'est un hobby faire du jeu vidéo? On peut-tu gagner sa vie à faire ça? Donc c'est sûr que pour nous, on est un peu geek, on est un peu dans le milieu, bon ça, on sait tout ça, mais c'est pas évident pour tout le monde. Donc c'est vraiment l'occasion idéale pour un peu démystifier ça. Mais on s'est rendu compte aussi que le niveau d'âge augmente un petit peu d'année en année. Donc commence à avoir des gens du collégial, des gens de l'universitaire, des gens qui font des retours aux études, des retours sur le marché du travail. Donc, de plus en plus, c'est de plus en plus de gens sont
mais
là.
Justement, la moyenne d'âge, c'est quoi à peu près, justement, dans cet événement-là?
Et je dirais, mais c'est vraiment, je veux dire, moi, j'ai fait des in and out là, dans la journée. Je dirais que peut-être... Ça devait tourner aux alentours de 18-25 ans environ, là, la clientèle cible. Mais ça allait un petit peu au-delà, un petit peu en dessous aussi. Mm-hmm. Mais c'était pas mal aux alentours de ça. Là. Je dirais fin secondaire, début collégial, en augmentant tranquillement.
Il y a même des parents qui viennent pour parler... éventuellement pour leurs enfants.
Ben oui, mais parce que c'est l'idéal, parce que t'as les entreprises qui sont sur place, qui sont en mesure de dire eux qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis t'as les écoles de formation qui sont sur place aussi. Donc c'est un peu une espèce de tout là, une espèce de deux pour un si on veut. Un buffet à volonté, exactement.
Est-ce que vous avez eu des questions? Bon, on n'arrête pas de parler du contexte économique qui est difficile, tout ça. Est-ce que vous avez eu des questions là-dessus? Puis est-ce qu'il y a un impact sur les entreprises présentement au niveau de cette fameuse crise économique là, laquelle on vit présentement?
Ben, C'est sûr qu'il y avait, c'est sûr que c'est des questions qui reviennent. Est-ce que vous allez embaucher dans les prochaines années? Ça a l'air de quoi en ce moment? Ben, tu sais, pour moi, je peux pas parler pour les autres entreprises.
Non,
là, pour Ubisoft, c'est sûr que ça nous touche. Toutefois, ben, tu sais, on est très optimiste dans la situation de la crise. Je dirais, au contraire, nous, on embauche. Puis même qu'on a, en pleine situation de crise, on a acheté 2 studios. Donc, on a acheté un studio dans la région de Vancouver, puis un autre au Brésil.
Ah ouais.
Donc, jusqu'à date, c'est 0 mise à pied pour Ubisoft, pour la crise économique. C'est sûr que, je veux dire, on tire pas l'argent par les fenêtres, puis on surveille nos dépenses. Mais concrètement, au niveau de l'embauche, ça a pas tellement changé, je dirais.
Excellent. Tu peux-tu juste me remettre en contexte, en fin de compte, l'événement? On parle d'il y a 3 ans, puis c'était en lien avec le Festival de cinéma des Trois Amériques. Quel était le lien avec Ma carrière en jeu puis le festival à l'époque?
Oui, parce qu'on s'entend que le Festival des Trois Amériques, c'est un festival de films, dans le fond.
Oui, absolument, absolument. Ben, en fait, la première année, j'étais moins impliqué au niveau de l'organisation et tout ça, donc j'aurais de la misère à le dire, mais je crois que c'est un... En fait, tout le monde se sont parlé au travers de ça. Il y avait Téléfilm Canada aussi, qui est très présent auprès de pas Ma carrière en jeu, mais du festival. Donc, en fait, eux trouvaient ça intéressant de créer justement une rencontre, une espèce de rencontre entre le monde du cinéma, le monde du jeu vidéo. Puis, ben, je sais que l'année dernière, c'était dans ce cadre-là. Puis, Téléfilm, ben, eux étaient intéressés à garder la journée Ma carrière en jeu au travers ça. Puis le festival aussi. Donc, on a poursuivi dans cette veine-là, si on veut.
Sûrement un lien aussi au niveau du multimédia. C'est un fait de compte, c'est un lien
de
multimédia ensemble.
Oui, absolument. Puis vraiment. De plus en plus, on cherche à faire en sorte que les gens se parlent, que les réalisateurs parlent au game designer,
ben
que tout ce monde le se parle.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de liens entre l'univers du film et l'univers du jeu vidéo de plus en plus.
Ben, on regarde seulement les cinématiques dans les différents jeu, c'est rendu des films et c'est vraiment impressionnant. Là, c'est de l'art, malgré que certaines personnes peuvent qualifier d'autres choses. C'est vraiment de l'art faire un jeu vidéo aujourd'hui.
Ben oui, absolument.
Là.
J'appuie ton commentaire à fond. Même, il y a plusieurs similitudes, que ce soit dans les phases de conception, au tout début du jeu, comme on dit, les cinématiques, les jeux de caméra, ces choses-là. Il y a vraiment un paquet de la réalisation par rapport au game design. Il y a un paquet de similarités entre les deux milieux.
Donc, en fin de compte, ce que je retiens, c'est que c'était un franc succès, enfin un succès sur toute la ligne au niveau de Ma carrière en jeu la fin de semaine dernière.
Oui, vraiment, vraiment. L'augmentation de l'achalandage, la grosse promo qu'il y a eu autour de ça, le public était au rendez-vous, les entreprises aussi. Aucun problème technique au niveau des conférences, même si j'étais là, puis que je suis souvent abonné aux problèmes techniques. Donc, tout était génial, puis le public a bien aimé, puis je suis encore en train de répondre à des emails qui m'arrivent, là, même presque 2 semaines plus tard.
Mais dis-moi, Émile, toi, t'as participé à l'événement en tant que... comme représentant de l'équipe d'Ubisoft, mais dis-moi, est-ce que tu as assisté toi-même à des conférences?
Oui, j'ai assisté aux autres conférences, si on veut. Par contre, c'est des conférences c'est sûr que je commence à connaître un peu, des conférences sur le métier du jeu vidéo, sur les étapes de conception. Puis, il y a eu énormément de monde.
C'est quoi les conférences les plus populaires?
C'est dur à dire comme ça. Ça peut paraître biaisé, mais la plus populaire a été l'atelier interactif qu'on a fait. Mais sinon, je dirais que l'achalandage a été vraiment, tu sais, on dit, là, je me pète les bretelles en disant ça en ce moment, mais tu sais, il y a eu des conférences qui étaient très fortes, là. On parle de 3-4 personnes différence entre les deux, là, okay. Tu sais. Donc, c'est sûr que par exemple, les conférences sur les carrières en jeux vidéo, c'est tout le temps très populaire. Les gens veulent en savoir plus. Les étapes de conception aussi, comment est-ce qu'on fait un jeu vidéo. Donc, vraiment, en fait, c'est un peu le moment dans la journée qui décide l'achalandage, si on veut.
C'était impressionnant quand même de voir ça. J'ai déjà assisté à une conférence d'Ubisoft je pense que c'était au Cercle. Et puis, de voir une salle bondée de jeunes gens, même pas majeurs, qui sont en train d'écouter une conférence magistrale, tu sais, c'est super sérieux. Mais vous réussissez quand même à attirer là, des jeunes là, qu'on pourrait pas croire au premier regard qui seraient intéressés à ça.
Ben oui, absolument. Ouais. Mais celle que tu avais vue au Cercle, c'était sûrement sur le son.
La musique et le son,
ouais, exact. Tandis que là, c'était un petit peu... j'avoue qu'il y avait quand même plusieurs personnes à cette conférence-là. Mais là, à Ma carrière en jeu, c'était plus général encore. Donc, okay. ça rejoint encore plus de gens.
Donc, on imagine que ce sera un rendez-vous l'année prochaine également pour cet événement-là.
Bien sûr.
Quand on aura des nouvelles, quand vous aurez des nouvelles, viendrez nous en parler, il n'y aura pas de problème, on va être là pour ça. Et on va commencer, on va continuer avant de revenir avec Émile. On va continuer en musique, François, de ton côté?
Oui, on va faire plaisir à Émile, on va passer une pièce justement de musique électro, c'est Taxi Nouveau OK. Est-ce que tu connais Taxi Nouveau?
Oui, oui, je connais un peu.
Peux-tu nous en parler un peu, peut-être, Duchamp?
Je peux pas vous en parler un peu. En fait, j'ai rencontré quelqu'un une fois, je crois que c'était au Festival Antenna, qui était membre de ce groupe-là. Donc, lui faisait un atelier Ableton Live. Le type était très sympathique, très, semblait très, très compétent et très, très dans sa musique. Donc, mais je peux pas vous en dire okay. plus. Je crois que leur musique va parler pour eux.
Moi, je dirais simplement que Taxi Nouveau, il réutilise les sons des jeux 8 bits et il fait de la musique avec ça. Donc, c'est très old school. Alors, on va écouter ça électro. Taxi Nouveau, et la pièce s'appelle Exciting. Vous êtes à puissance maximale. We'll be right back.
Je suis Monsieur Fall et vous écoutez Puissance Maximale.
Toujours sur les ondes de CKIA, nous sommes en compagnie d'Émile Gauthier d'Ubisoft et également de François G. Couillard. Et on va continuer cette super entrevue qu'on a avec Émile. Premièrement, en continuant, juste pour savoir, depuis le mois d'avril, il y a la fameuse nouvelle loi au Québec, selon laquelle tous les jeux vidéo auxquels on joue doivent être traduits en français. Donc, il n'y a plus possibilité d'avoir des versions seulement en anglais. Est-ce que ça a un impact pour une compagnie comme Ubisoft? Je sais qu'Ubisoft traduit déjà ses jeux, mais quel est l'impact que ça peut avoir sur les différentes compagnies de jeux?
Ça résume un peu, en fait, ce que tu viens de dire, résume un peu la position. C'est dur de dire, encore une fois, pour les autres entreprises. Pour Ubi, en fait, c'est un... ça change pas grand chose, en fait. Ça fait plusieurs années que nos jeux sont traduits anyway en 9 langues. Donc, nous, ça change rien, là. Tu sais, c'est business as usual.
De votre côté, en fin de compte, c'est que le jeu soit traduit en 9 langues, il va sortir à la même date, peu importe, n'importe où.
C'est ça, exactement, fonctionne. Exactement.
Vous êtes dans votre horaire de confection, c'est toujours comme ça, là. Je veux dire, ça sort à la date prévue, peu importe.
C'est ça, exact. Je pense que pour certains autres produits, ça se peut qu'il y ait un petit décalage, mais jusqu'à maintenant, je crois qu'il n'y en a pas eu, en tout cas, de ce que j'ai vu en ce moment, il n'y en a pas eu là, de décalage. Là.
Parce que moi, de mon côté, c'est les questions que j'avais beaucoup là, des gens que je connais, que je côtoie. C'est bon, est-ce que ça va avoir un impact sur le jeu que j'achète normalement, que je dois avoir à la date prévue de la sortie? Puis là, bon, le fait qu'on doive le traduire en français, est-ce que ça va avoir un impact de 2-3 semaines? Ça me permettra pas de l'avoir parce qu'ils ne sont pas en vente libre sur les tablettes. Il va falloir que j'aille, je sais pas, mon état de New York ou dans le Maine pour l'acheter. moi, personnellement, quand je joue à des jeux vidéo, je les joue en anglais. Là. C'est pas que j'ai quelque chose contre la langue française ou quoi que ce soit, même que je protège mon français, puis j'en suis très fier. Sauf que, bon, en étant enseignant en langue puis tout ça, moi, je suis un habitué de regarder de la télévision en anglais également, puis de jouer aux jeux en anglais. J'ai pas de problème au niveau de la compréhension. Même que quand j'étais jeune, ça m'a permis de développer ce petit côté-là là, de l'anglais, en fin de compte, en regardant la télévision et en jouant à des jeux, de m'améliorer et d'avoir peut-être un certain avantage par rapport aux cours qui nous étaient donnés au secondaire à l'époque, qui n'étaient pas toujours des cours d'anglais avancé. Mais je trouve ça un peu... on parle d'une compagnie comme Ubisoft, là. Regarde, Ubisoft, c'est beau, vous les traduisez. Mais si, par exemple, il y a différents jeux d'autres compagnies qui ne sortent pas, je trouve ça un peu de valeur pour les gens qui doivent attendre quelques semaines et ne pas en profiter comme la plupart des gens, tout simplement.
Mais je pense que, tu sais, les développeurs vont s'adapter à ça éventuellement aussi, puis ça va rentrer dans leur planning de production.
Oui, mais j'imagine, en fin de compte, la francophonie, là, ça ne s'arrête pas juste au Québec. Là. Il y a la France, puis il y a certains pays d'Afrique du Nord.
Mais justement, les jeux sont traduits où, exactement?
C'est en fait nous nos jeux ils auront pas c'est une version française qui est dans un français quand même assez international, je dirais, là, si on check le dernier Prince of Persia ou Assassin's Creed, tout ça. Donc en fait, il y a pas vraiment de distinction entre la version québécoise et la version française. Okay. Puis il faut bien spécifier que en fait, à l'instant où l'entreprise selon cette loi-là crée un jeu puis qui est disponible en version française, c'est cette version-là qu'ils doivent vendre au Québec. Donc c'est pas une version qu'ils doivent faire spécialement pour les Québécois. En fait, c'est si vous faites une version française au Québec, on va prendre celle-là dans le fond, là, avec le package qui vient avec okay. L'emballage, tout ça.
Mais je sais qu'il y a certains films qui ont eu beaucoup de succès parce que justement ils étaient doublés au Québec avec des gros accents, tout ça. Est-ce que ça a déjà été pensé peut-être à Ubisoft de faire un jeu doublé québécois avec des gros accents là, québécois là? Peut-être que ça aurait du succès.
J'imagine que ça a certainement été pensé. C'est peut-être encore sur la table à quelque part.
C'est quand je pense à un film comme mettons Slapshot, ça aurait jamais eu de succès, ça aurait pas été doublé au Québec, tu sais.
Ah, c'est sûr, faut voir rendu là le rapport, le retour sur investissement.
Peut-être que ça arrivera avec Ding et Dong, le jeu. Alors, on devra avoir les acteurs de Ding et Dong.
Ah, c'est intéressant, ça.
Peut-être que Assassin's Creed 2 sera en jargon québécois, justement, pourquoi pas.
Oui, avec l'héroïne féminine, cette fois-ci, avec la voix de Jade Raymond. Ça serait vraiment numéro un.
Est-ce que tu l'as rencontré toi-même, Émile, Jade Raymond?
Non, malheureusement. Tout le monde m'en parle, mon Dieu. As-tu déjà vu Jade Raymond?
Il nous le dit pas, mais regarde l'anneau qui est au doigt, là. Il nous le dit pas, mais c'est ça.
Mettez-moi pas dans le trouble.
Non, c'est beau. C'est juste une farce, voyons. Ne vous en faites pas, Madame Gauthier, si elle existe. Alors... Mais pour poursuivre, ben, oui, avec oui. ça, ben, autre sujet, parce que on est maintenant rendu avec des compétiteurs à puissance maximale. Non, pas des compétiteurs directs, mais Émile s'est lancé du côté de la radio.
Ben
avec,
oui.
XM, je crois, c'est ça?
Oui, exact. En fait, c'est une nouvelle émission qui, mais ça vous fait pas compétition
ben
tant
non,
que
ben
ça,
non,
les
c'est
boys.
Des farces que je faisais, voyons.
c'est sur XM, donc c'est sur la radio satellite, et sur le net aussi. Ben, l'émission s'appelle Haute Résolution, une émission que j'anime avec un type fort sympathique qui se nomme Steve Tremblay, alias Steve the Geek. Steve the Geek, lui, faisait des chroniques technologiques avec Jeff Filion à Radio Pirate, puis sur XM, depuis 3 ans. Puis là, bien, il a eu l'opportunité d'avoir sa propre émission. Donc, c'est avec lui que je vais co-animer ça. Donc, c'est une émission vraiment à caractère technologique. On va jaser les tendances Internet, des nouvelles percées technologiques, de jeux vidéo, bien entendu, de mobile aussi, tout ce qui concerne la mobilité, donc téléphone portable, les jeux, les applications iPhone, ces choses-là. Ouais, donc une espèce de melting pot technologique là qui est en onde sur XM, c'est les mercredis à midi.
Puis là, on s'entend, il faut payer pour l'écouter.
Faut payer, mais oui, pour XM, faut payer. Donc, c'est sûr, faut s'acheter le petit lecteur. Ça, c'est pas très cher. Puis payer un abonnement qui est environ d'une dizaine de dollars par mois. Mais on a accès à tellement de canaux, que ce soit musicaux, que ce soit pour autre chose. Imaginez-vous donc que je suis sur la même antenne que Oprah Winfrey.
Hey, c'est pas rien.
Peut-être qu'elle t'écoute.
Ouais, peut-être qu'elle m'écoute. Qu'on comprend peut-être très bien mon québécois.
Mais Oprah, c'est ça, elle parle en anglais. Donc, il y a des émissions en français, il y a des émissions en anglais?
Oui, exact. Mais okay. En fait, il y a un poste francophone sur XM, qui est le 172, okay. qui est le poste où on est en onde. Donc, en fait, c'est ça. C'est un poste francophone, mais diffusé à la grandeur de l'Amérique, si on veut.
OK.
Est-ce que c'est disponible également ailleurs qu'XM? Parce que
oui.
Je sais qu'il y a la radio Internet aussi, là, qui
ben
est,
oui.
Donc c'est possible également sur le site
ouais,
Internet.
En ce moment, on n'est pas encore équipé pour l'écouter live sur le site Internet, mais si vous allez sur radiohauteresolution.com, ben, vous pouvez l'écouter en podcast, donc dès la fin de l'émission. Puis les liens aussi dont on discute tout au long de l'émission se retrouvent là-dessus. Non, en même temps.
Super.
Donc c'est pas tout à fait une compétition. Vous êtes plus au niveau ludique. Moi je suis plus au niveau techno. Donc ça se peut fort bien que je vous invite d'ailleurs un jour.
Ben, oui,
ça serait vraiment super.
Ben oui.
C'était ça que je te faisais.
Ben non.
C'est musique.
Oui, donc écoute, ben merci Émile d'être venu.
Ça fait plaisir, merci de l'invitation.
Et puis au sujet de ta carrière musicale, là, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient?
Oui, en fait, moi, ces temps-ci, je suis plus en solo, donc sous le pseudonyme M1000.
Oh, Lead Speak.
Oui, exact. Donc, moi, ce que je fais en ce moment, mon gros rush de la semaine, c'est que je remixe Pax Kings, qui est un groupe formé de Millimétric, que vous connaissez probablement,
oui,
et de Maxime Robin. Donc, je remixe les deux gars pour leur album qui va sortir en mai. Donc, en mai, il risque d'avoir un show avec eux et avec moi aussi probablement. Et justement, l'album de Pax Kings qui va sortir avec mon remix. Sinon, j'ai une chanson qui se retrouve sur une compile qui va sortir en France en mai aussi d'une petite maison de disques là-bas. Donc, j'espère que ça sera en vente ici. Qui sait?
Super.
Et
éventuellement,
il y a plein d'autres projets, des concerts aussi à venir au cours des prochains mois. Ben, je vous tiendrai au courant.
Excellent. Donc, ben, merci beaucoup, Émile Gauthier.
Merci beaucoup.
Donc, bonne chance, évidemment, dans ton travail chez Ubisoft, puis bonne chance dans ta carrière.
Merci.
Artistique.
Lâchez pas.
Alors, on va écouter une pièce maintenant de Musax, donc notre ami français de Haute-Garonne, qui nous a sélectionné une pièce d'un jeu qui va le présenter lui-même. Vous écoutez Puissance Maximale.
Le premier volet de la série des Gradius innove dans plusieurs domaines. En effet, il s'agit du premier shoot'em up comportant une musique pour chaque niveau et boss. De même, le power-up, autrement dit la possibilité de faire évoluer son armement, fait son apparition.
ici Philippe Despalières. À chacun de mes voyages au Québec, j'écoute Puissance Maximale.
C'est la musique. Qu'est-ce que j'entends? C'est la musique de notre fameux concours. Et oui, encore une fois, un excellent jeu à gagner. Et de quoi s'agit-il, François, cette semaine?
Il s'agit d'un jeu intitulé « Jeu de mémoire permet d'apprendre et de reconnaître les émotions ».
Oh, ouais.
Et ça, c'est un jeu. C'est la première fois qu'on fait tirer un jeu pour les jeunes gens.
Oui.
Et là, on parle de vraiment jeunes gens. Et c'est un jeu de plateau. Et c'est pour les 3 à 8 ans.
3 à 8 ans.
Et ça, c'est fabriqué par Gladius. Et ça, Gladius, c'est une compagnie qui a sa shop de production à Beauport.
Oui, juste donc dans ça... le coin ici.
Exactement. Donc, c'est très rare qu'on ait des jeux de plateau fabriqués localement. Donc, Gladius, évidemment, qui exporte ses jeux à travers le monde.
Un excellent jeu de mémoire, un jeu pédagogique également.
Exactement.
Pour que les jeunes reconnaissent les émotions liées, en fin de compte, justement, les figures liées aux différentes émotions que l'on peut vivre dans la vie.
C'est un jeu, tu sais, qui est constitué de nombreuses illustrations représentant des émotions. Ça a été fait par deux psycho-éducatrices de l'Université de Montréal, Audrey Leblanc et Mélanie Martel. Et donc, ils ont décidé de créer ce jeu-là pour aider les enfants à reconnaître les émotions. Et j'ai vu dans le communiqué que c'était pour lutter contre le taxage à l'école, l'intimidation. C'est le genre de choses qui préoccupent souvent les parents.
Et oui.
Il y a eu des dossiers dans Le Soleil récemment là-dessus. Donc, évidemment, c'est toujours un sujet chaud, hein, l'intimidation à l'école. Et évidemment, on encourage les jeunes gens à faire attention à l'intimidation et évidemment à le dénoncer vigoureusement aux autorités supérieures pour faire stopper ça tout de suite. Donc voilà, un jeu de mémoire. Vous avez juste à appeler au 529-90-26.
529-90-26, tout à fait.
Et vous pouvez gagner. Jeu de mémoire permet d'apprendre et de reconnaître les émotions de 3 à 8 ans. Et voilà. Sinon, on va continuer en musique.
On retourne en musique.
On va écouter une pièce de Regis Gratoons et la pièce s'appelle Respite Totul. Vous écoutez Puissance Maximale
sur les ondes de Sequoia.
Toți calatorii și calatoarele, eu ți-i faceți din liuruca. Cei excluși sunt cei care vor să ne vadă plecați, pentru că în viața până la moarte eu sunt pregătit să urmez dragostea mea de calator și de diferență. Sfârșit, unde nu mai este loc pentru a se opra. Parcurg regiunile cele mai frumoase, cele mai triste, unele fața de altele, dar omenii destorgeră naturii cu industriile lor poluat. Mai joca în paduri, în paduri, ce vorbesc interesant.
trăi, numai de bolile lor, ca niște batrani înainte de a fi oamenii. Să iluminăm pe ce car nu val, ca omenire ai canceruri de pe pământ. Totul am consumat, am distrus și cei care nu trăiesc în țările bogat. Nu au și nu vor avea nimic.
Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximal.
De retour à Puissance Maximale sur les ondes de CKI. Hein? Et on va parler un peu de jeux vidéo à ce moment-ci, à cette heure-ci de l'émission. Quelques petits commentaires sur le jeu Killzone 2, qui est un jeu qui est sorti récemment, il y a quelques mois de cela.
On parle d'un 3D shooter.
Et oui, à la première personne, un jeu qui a été édité par Sony Computer Entertainment of America, qui est quand même un très bon jeu pour la deuxième version, parce qu'on en avait parlé il y a quelques semaines de cela. On se demandait comment ça, les critiques étaient si bonnes, malgré le fait qu'on y a plusieurs détracteurs ne parlaient de ce jeu-là. Ils faisaient référence au premier tome, disons, du jeu, qui était Killzone.
Qui était moyen.
Puis il y avait eu des notes. Entre 6 et 7 sur 10.
Oh, ça c'est très mauvais.
C'était pas très très bon. Eh bien, moi je l'ai essayé. Un jeu qui est bon, M pour mature, faut faire attention. On peut pas jouer à ça, même tout dépendant de l'âge qu'on a. Il peut se jouer seul ou en ligne. J'ai essayé les deux versions, donc le mode campaign, qui appelle, ou campagne, et le mode en ligne. C'est un jeu quand même très bien fait. Moi j'ai été impressionné parce que ce que j'avais entendu du premier jeu, c'était pas très très reluisant. On incarne Tomasz Zvezhchenko.
Qu'est-ce que c'est ça?
Zvezhchenko.
C'est un russe?
Et c'est pas Tomasz Plekanec, comme on dit. Ou en fin de compte, j'ai aucune idée ce qui c'était, mais on se promène dans le monde futuriste de Elgash. Et on essaie d'éliminer les méchants, mais je crois qu'on envahit les méchants. L'histoire est assez difficilement compréhensible.
Okay.
On comprend au départ là, qu'on est parti pour attaquer ce monde-là, et on les envahit. Ils ont dû faire quelque chose de très mal, qu'on va sûrement connaître un petit peu plus loin dans le jeu.
C'est un peu comme le film, là, Trooper, voyons. Starship Trooper.
Moi, je ne connais pas.
Starship Trooper?
Du tout. Ben, je veux dire, je connais le nom, mais je veux dire, j'ai jamais regardé.
C'est genre les humains qui attaquent une planète de bestioles, et puis...
Ben là, en fin de compte, c'est ça. Ce sont des humains qui attaquent... ça ressemble à des androïdes un peu, mais je crois que c'est quand même d'autres êtres vivants qui sont juste bien armés. Puis
l'histoire est floue un peu.
Ben, l'histoire est floue, puis c'est pas... En fin de compte, au début, comme dans n'importe quel jeu, tu veux connaître un peu l'histoire, tu veux savoir pourquoi tu joues, ça t'intéresse, puis à un moment donné, tu te dis, bon, il me semble que c'est pas très, très développé, ouais, on attaque cet endroit-là, là, faites attention, tout ça, let's go, on y va. Et bon, à un moment donné, tu te dis, l'ambiance du jeu est tellement bonne que tu finis par pas écouter l'histoire, ce qui se passe, puis la seule chose que tu veux, en fin de compte, c'est continuer les tableaux qui s'en viennent.
Okay.
Donc, c'est quand même très, très bien à ce niveau-là. C'est impressionnant au niveau graphique comme jeu, au niveau sonore également. Et il arrive parfois qu'on voit malgré tout des mini-chargements. Ça fait longtemps que j'avais vu ça dans un jeu vidéo, c'est-à-dire que quand on avance dans le tableau, qu'il y a des petits lags, comme si le jeu est en train de charger. Dans la nouvelle génération, j'avais pas vu ça souvent au niveau des jeux de la nouvelle génération. Au départ, ça méritait un peu. Je me disais, bon, ça n'a pas de sens que ça arrive dans un jeu de nouvelle génération. Sauf que... on s'habitue rapidement, là. Ça arrive que très rarement dans le jeu qu'on change comme ça de tableau et qu'il y a des petits lags comme ça. On l'oublie parce que il y a tellement d'actions qui se passent autour dans ce jeu-là que ces petits lags-là, on les met de côté. Parlant d'action, franchement, j'ai rarement vu un jeu dans lequel, là, on est envahi de tout bord, tout côté de la sorte, là. C'est incroyable, là. Ça vient de partout et on doit se défendre de tous les côtés. Et, bon. Il y a d'autres jeux comme ça au niveau des
C'est un jeu qui s'abrasse pas mal, mettons.
Ça brasse vraiment, quand même assez impressionnant. Pour ce qui est du jeu en ligne, ben on a les possibilités régulières des jeux, c'est-à-dire Team Deathmatch ou bien Skirmish, là, qui est fin de compte Escarmouche. Et qualité graphique, c'est toujours là. C'est ça qui est impressionnant. Des fois, quand on arrive en ligne, la qualité graphique est un peu diminuée parce qu'on est sur des serveurs ou parce qu'on n'a pas mis le paquet. On allait plus au niveau de la jouabilité plutôt que sur le côté graphique. Mais on reste avec les belles ambiances du côté graphique qu'on connaît pour le jeu en ligne. Puis on a vraiment plus de plaisir parce que je le compare un peu avec Resistance 2 qui était sorti il y a quelques mois de cela également. Moi, Resistance 2, j'avais vraiment pas... J'avais trouvé le jeu très, très bon au niveau de la campagne, au niveau de la carrière, mais au niveau du jeu en ligne, j'avais trouvé ça pitoyable. Donc, vraiment, je m'amuse beaucoup plus à Killzone 2 qu'à Resistance 2 au niveau du jeu en ligne. En général, un très, très bon jeu. Moi, je donne un 8.5 sur 10. Pour ce jeu-là. Et on va continuer avec une chanson et je vais revenir avec Guitar Hero Metallica.
Allons-y, donc on va écouter une pièce de Debashish Bhattacharya. On était dans la musique du monde et bien on va poursuivre là-dedans. Écoute. Et là, attention, juste pour la fin, je vais essayer de prononcer le nom de la pièce. C'est Amrit Anand. Bon, c'est pas si difficile que ça, c'est de la musique indienne.
Et voilà.
Allons écouter ça, vous êtes à puissance maximale.
Andreea, sunt de la Fox Mind și îmi place puissance maximal.
De retour, une petite musique d'ambiance, de retour sur les ondes de ces cueillettes.
Alors, t'es parti loin, 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 là. T'es dans le désert, là.
Vraiment, là, c'était quand même une belle découverte. Merci à notre personne au show musical qui s'appelle François G. Couillard. Et on poursuit avec Guitar Hero Metallica. Parlant de musique, justement, Metallica qui... Bon.
On passe de Debashish à Metallica.
Eh, hey, mon Dieu, est-ce que c'est la même chose? On ne sait pas. Alors, bien oui, j'ai essayé en fin de semaine le fameux Guitar Hero Metallica. Tout le monde attendait avec impatience, parce que Guitar Hero, on sait, là, c'est le jeu qui a amené la musique et le fait de jouer d'un instrument de musique sur la console de jeux vidéo. Un jeu qui peut paraître ne pas se développer très beaucoup, dépendant des différents titres. On était rendu à Guitar Hero 3, plus celui d'Aerosmith.
Ah oui,
celui
de Metallica
maintenant, le World Tour, le Greatest Hits qui va sortir bientôt. Bon,
c'est juste du rock. Moi, j'ai hâte qu'il sorte un Guitar Hero jazz.
Ouais, pourquoi pas?
Ou un Guitar Hero indien.
Ça pourrait peut-être arriver.
Le cabaret de la sitar.
C'est certain que c'est... oui, c'est ça. Il faudrait faire la sitar en plastique et tout ça. Mais c'est certain que... Moi, c'était la... J'avais essayé Guitar Hero Aerosmith. N'étant pas un fan d'Aerosmith, ça m'avait pas vraiment plu tant que ça. Bon, puis le fait que Guitar Hero ait ramené amené la batterie et le micro comme Rock Band, bon, j'avais apprécié aussi. J'avais essayé le World Tour, mais Rock Band restait encore pour moi comme le précurseur au niveau de la batterie et du micro, donc j'ai eu un peu de misère avec ça. Mais bon, est-ce que Guitar Hero Metallica m'a amené à aimer encore plus Guitar Hero? C'est certain que quand on regarde le jeu, il n'y a pas beaucoup d'amélioration. Là. Je veux dire, c'est la même chose, c'est les mêmes graphiques qu'on voit.
Mais je pense qu'on peut choisir les tours, là.
Ouais, ben en fin de compte, ce qui arrive, c'est que on commence avec le mode carrière. Moi, j'ai essayé le mode carrière. On commence en grand, là. Il y a des belles petites animations, Metallica, la musique, l'entrée, c'est vraiment incroyable. On voit toutes les jaquettes d'albums ou les couvertures d'albums qui sont vraiment qui passent les unes après les autres. Et quand on commence le mode carrière, là ça commence en grand. On commence avec For Whom the Bell Tolls de Metallica, bien sûr, une excellente chanson. Et on a même une version de plus à faire en jeu, et c'est The Unforgiven, qui est encore une excellente tune de Metallica. Et là on est sûr qu'on est parti pour la grande. On est vraiment là Metallica. On a choisi nos joueurs, en fin de compte, les personnages de Metallica. Et on est certain qu'on va jouer juste du Metallica tout le long du jeu. Bon, on a une petite déception au moment où on revient sur Terre. On a joué ces deux tunes-là, c'est comme si on était dans un rêve. Mm-hmm. Non, en fin de compte, on devient le band qui va jouer les premières parties de Metallica pendant un setlist ou quelques chansons seulement.
Et là, on parle de quel band?
C'est un band no name, okay, qui est le nôtre. Okay. Mais en fin de compte, il y a un nom, mais je l'ai complètement oublié. J'étais tellement déçu que quand j'ai vu passer l'animation, j'ai fait, bon, OK. Fait que là, on va jouer quelques chansons.
Finalement, tu joues même pas des pièces de Metallica.
Oui, on en joue des pièces de Metallica. C'est juste que on nous a attiré l'attention à dire, on va jouer du Metallica. Nous avons joué deux excellentes tunes, celles que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Sauf que là, tout de suite après, on dit non. Là, vous êtes le band. Ben, c'est quand même bien, là. Je veux dire, on est le band, puis on doit jouer jusqu'à quatre ou cinq étoiles, là, parce qu'il y a des étoiles quand on joue les chansons parfaitement, là, de cinq à une étoile. Et bon, après quatre ou cinq étoiles, si je me souviens bien, on peut après ça jouer des chansons de Metallica. On tombe sur d'autres chansons de Metallica qui réapparaissent. Okay. Mais c'est juste le coup de jouer les premières chansons, là, qui sont de d'autres groupes qu'on connaît également. Mais bon, c'est quand même très bien, parce qu'une fois qu'on a joué ce premier, je m'excuse pour le mauvais français, mais le premier set de musique qui sont d'autres pièces, bien là, on tombe à Metallica, et là, on a d'excellentes chansons. Et à partir de là, on peut débloquer d'autres chansons. Et à chaque fois qu'on va débloquer une liste de chansons à partir de ce moment-là, en accumulant des étoiles, bien, il y aura toujours des chansons de Metallica qui vont se débloquer en même temps que les autres. Donc, si on veut, à part la première liste là, où on doit jouer des chansons autres que celles de Metallica, toutes les autres, on peut seulement jouer les chansons de Metallica et on va réussir à débloquer toutes les chansons du jeu sans problème.
Okay.
Donc, c'est vraiment... bon, pour un fan de Metallica, moi, j'en suis un. Et vraiment, c'est le fun de jouer et de comprendre vraiment là où ils sont dans la chanson. Tu sais, parfois on les entend sur CD dans notre radio, puis on réussit à entendre la encore une fois, je m'excuse pour le mauvais français, mais la track de bass et ou bien celle de la guitare. Sauf que là vraiment là, quand on joue la bass, on sent vraiment là était où en fin de compte ce que Newstead ou
t'as le feeling de Metallica.
Oui, on a vraiment le feeling, donc c'est quand même très bien fait à ce niveau là
tu rentres dans la peau des artistes, des musiciens du groupe.
Ouais, puis mais comme je vous dis, il y a rien rien d'extraordinaire, là, rien de nouveau à dire. Est-ce que ça amène des choses de nouvelles dans le jeu de Guitar Hero? Pas tant que ça. Il y a des modes un petit peu plus experts, là, comme il est possible d'avoir double pédale si on joue de la batterie.
Ah oui?
Oui, mais moi, je suis pas rendu là, mais il est possible d'acheter une pédale extra et de jouer le double pédale.
Oh boy.
Comme Lars Ulrich fait pour Metallica. Donc oui, c'est une amélioration à ce niveau-là. Il y a dans les extras quelques vidéos aussi qui sont intéressantes, des vidéos live de performance de Metallica.
Ah oui? Il y a des vraies vidéos?
Oui, il y a des vraies vidéos. Et il y a également des vidéos de quand Metallica est allé en studio pour enregistrer le jeu. Et parce qu'en fait, en fin de compte, se sont fait placer toutes ils étaient dans des écrans. Il y avait même les senseurs sur eux qui faisaient les vrais mouvements. Donc, les personnages qu'on voit quand on joue, que ce soit James Hetfield, que ce soit Ulrich, que ce soit tous les autres qui sont là, on voit vraiment les mouvements qu'ils ont fait eux quand ils ont enregistré le jeu. Donc, c'est quand même bien fait. Puis c'est quand même très réaliste. C'est quand même un très bon jeu. Moi, je suis satisfait. Je donne un 8 sur 10 à ce jeu-là parce que, bon, OK, je suis peut-être un peu biaisé. Je suis un fan de Metallica. Je donne pas la grosse note parce qu'il n'y a pas extrêmement d'amélioration qui pourrait faire de ce jeu-là quelque chose d'extraordinaire.
Mais c'est ça, il n'y a pas d'innovation beaucoup. Ça reste la recette là, éprouvée. Tout à fait. Les pièces de Metallica.
Tout à fait.
Mais quand même, Québec, je pense que Metallica, c'est tellement populaire que les gens vont apprécier.
Oui, 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 c'est ça. Si vous êtes un fan de Metallica, vous avez une console là, qui peut supporter ce jeu-là, ça vaut la peine de l'avoir. Je pense que vous allez avoir du fun à jouer à ce jeu-là sans arrêt. Moi, vraiment, j'ai eu du fun toute la fin de semaine. Et je le conseille pour les fans de Metallica, et même ceux qui ne le sont pas, peut-être pour découvrir un peu quelle est cette musique-là. Parce qu'on en a entendu parler beaucoup en fin de semaine avec le fait que les billets des futurs spectacles à Québec sont envolés rapidement, et même pour ceux de Montréal. Donc, ça vaut la peine peut-être de voir qui est ce band qui fait...
Bouger les foules. Et mais dis-moi ça. Donc, tu dis que t'es un fan de Metallica, mais toi-même, est-ce que t'as acheté tes billets?
Oui, j'ai des billets. J'ai des billets pour le
tu
show...
Tu vas faire des envieux?
Le show de Québec, et j'ai des billets pour un des shows de Montréal également. Donc, je serai à Montréal en septembre, à Québec en octobre.
C'est pas vrai. Tu vas aller voir en Québec et à Montréal.
Eh oui.
Mais t'es complètement fanatisé.
Eh mon Dieu, est-ce que je suis un geek de Metallica? Et c'est des choses qui arrivent. Mais j'ai vu les deux derniers shows à Québec qui étaient à une journée de différence, au mois d'octobre en 2004, si je me souviens bien. Et tout le monde me disait, ben oui, on t'a acheté deux billets pour le même show. Ils ont fait deux sets de chansons différentes.
Ah ouais.
Je veux dire, ils ont rejoué les classiques, ils ont joué, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. Donc, en deux soirs, on a pu voir quasiment tout Metallica live, ce qui était quand même très bien.
Mais là, ça marche pas, là, Vincent. T'as fait couper tes cheveux récemment, là. C'est pas supposé, là. Normalement, il aurait fallu que tu les laisses pousser.
Ouais, cette valeur, hein. C'est vrai que quand je vais brasser la tête, il y en aura plus autant qui vont descendre. Mais bon, que veux-tu? Il y a eu même cette époque-là où les gars de Metallica se sont coupés les cheveux carrément.
Oui.
Ils ont coupé le lien avec cette fameuse culture poêle qu'on appelait dans le temps, et ils ont coupé
inacceptable.
Ah, mais c'est des choses qui arrivent avec la vie, et ça met fin déjà à l'émission d'aujourd'hui.
Et oui, donc on va vous souhaiter bonne semaine de jeu. Et là, évidemment, si vous voulez nous accompagner, il y a une chose que vous pouvez faire, comme à chaque semaine, à tous les lundis, à l'Abraham Martin, restaurant situé dans le complexe Méduse.
Et oui.
Vous dirigez là.
À 18h, on sera là.
Et on est là jusqu'à 11h du soir, c'est gratuit. On joue à des jeux de plateau. On s'amuse, on boit de la bière, on consomme des boissons alcoolisées et on mange bien, parce que la Brave Martin, c'est un bon restaurant. Et puis c'est ça, on vous invite.
Et oui, et c'est ce qui m'a fait à notre émission. Merci beaucoup François Gécouillard d'avoir été à la réalisation de cette émission-là.
Et merci à toi Vincent Lacroix, Vincent Langlois.
Vincent Lacroix, ce n'est pas le même.
C'est facile de se tromper par exemple.
Oui, mais en fin de compte, moi c'est Langlois, mais il n'y a pas de problème, je te pardonne. Et on remercie également Émile Gauthier qui est passé nous voir et qu'on recevra sûrement dans les prochaines semaines.
Exactement.
Alors à tous et à toutes, merci d'avoir été à l'écoute. C'est l'émission qui suit, c'est Homologue, et on vous souhaite une bonne semaine. I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns and the Mountain Dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereo's a pumping Zeppelin. It's that time of the night, we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin. It's D&D! Fighting with the legends of yore. It's D&D! Never kissed a lady before. Nope. Mm-mm. Woo! All right, take it home. A little solo for it. One more time. Now the Lord of the Rings, the dark crystal and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tack's a real bastard, but a fair dungeon master.